Abdiam, bonjour.
Bonjour.
Je souhaiterais te demander à toi, qui est le grand historien de la question noire aux États-Unis, entre autres choses, je voudrais te demander de nous dire ce qui s'est passé aux États-Unis à partir du moment où la guerre de sécession s'achève, l'esclavage en principe est aboli. On aurait pu rêver, évidemment, à la fin des formes extrêmes de domination, de discrimination, de ségrégation, de violence, etc. Qu'est-ce qui se passe après, à la fin de l'esclavage ?
À la fin de l'esclavage en 1865, donc après une guerre civile terrible, la population noire du sud des États-Unis est donc libre. C'est un amendement à la Constitution qui le confirme en janvier 1865. C'est donc un moment extraordinaire, un grand moment de liberté pour celles et ceux qui étaient auparavant enchaînés littéralement par le système de l'esclavage. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est une fenêtre démocratique aux États-Unis. C'est la possibilité de voter pour ceux qui n'étaient pas des citoyens jusqu'à présent, et ils votent et ils s'inscrivent sur les listes électorales en dépit des obstacles qui se dressent ici et là. Et donc entre 1865 et les années 1880, il y a un moment qui est un printemps démocratique dans le sud des États-Unis qui est réel, qui a été bien mis en valeur par de nombreux historiens. Et puis ce printemps démocratique se clôt à partir des années 1880.
On saute au-dessus de l'été, on saute au-dessus de l'automne, on arrive en plein hiver.
Voilà, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les vieilles élites blanches du sud des États-Unis, les anciens propriétaires d'esclaves, passent une alliance politique avec le monde des blancs, qu'on appelle les petits blancs, disons, ceux qui sont dans les positions les plus modestes d'un point de vue social, pour marginaliser, expulser les noirs de la vie sociale et de la vie politique des États-Unis. Et donc se met en place à partir des années 1880 un système de ségrégation dans les transports publics, dans les écoles, dans tout l'espace public en général, jusque dans les ascenseurs, les cimetières, les stades de sport. Et puis parallèlement à cela, la privation du droit de vote. Ça, c'est un élément essentiel, la marginalisation politique. Les Noirs sont privés du droit de vote par toute une série de dispositions locales, d'expédients juridiques, de telle sorte qu'ils ne pèsent plus localement, alors que dans certains États, ils sont encore majoritaires, dans l'Alabama, dans le Mississippi ou en Caroline du Sud. C'est donc ce système-là qui se met en place et qui perdure jusque dans les années 1960.
Alors, c'est un des aspects du problème. Ce qu'on appelle les lois de Jim Crow, c'est ce qui vient justement mettre en forme légalement. Ce sont des lois qui valent pour tout le territoire américain ou qui valent dans certains États. Comment ça, juridiquement, que sont ces fameuses lois Jim Crow ?
Les lois Jim Crow, ce sont les lois de ségrégation. Ce sont les lois littéralement de séparation raciale dans le sud des États-Unis, mais elles sont extrêmement variables selon les États. Selon les États, les toilettes sont séparées ou ne sont pas séparées dans les gares. Bref, il y a une multitude de dispositions locales qui rendent d'ailleurs les voyages très difficiles pour celles et ceux qui passent d'un État à l'autre. Il y a même dans le sud des États-Unis à cette époque-là des brochures qui sont distribuées où l'on peut consulter les différentes lois lorsque l'on arrive dans une ville ou lorsque l'on arrive dans un État nouveau pour ne pas faire d'erreur dans son itinéraire, dans le choix d'un hôtel, etc. C'est l'époque aussi où il y a des guides de voyage à partir du début du XXe siècle, pour les automobilistes noirs, de manière à repérer les stations-service où ils pourront être servis. Une sorte de guide Michelin, en quelque sorte, du sud des États-Unis, pour tracer son itinéraire dans un maquis absolument incroyable et baroque de dispositions qui sont des dispositions locales.
Alors ça, c'est en quelque sorte réglementaire, c'est le racisme réglementaire, institutionnalisé. Il y a aussi des phénomènes plus violents, plus politiques, des lynchages, du Ku Klux Klan. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment ça apparaît? Est-ce que c'est dans le même contexte? Et comment ça se met en place?
Oui, les lynchages n'existaient pas pratiquement pendant l'esclavage. L'esclavage, l'époque de la violence institutionnalisée, c'est le moment où les maîtres sont propriétaires de leurs esclaves. Ils peuvent les punir de la manière qu'ils veulent, mais on n'a pas affaire à ces formes de terreur qui apparaissent à partir des années 1890-1890. Justement, on a dénombré environ 5000 lynchages entre cette époque-là et les années 1960, généralement d'hommes noirs, accusés souvent d'un regard un peu trop appuyé à l'égard d'une femme blanche. Il y a toujours une dimension là, genrée dans le lynchage, et qui visait d'une manière générale à terroriser la population noire du Sud, à montrer que le moindre écart dans le comportement pouvait avoir des conséquences mortelles pour les personnes concernées. Les lynchages ne sont pas simplement des exécutions sommaires et clandestines. Ils peuvent être annoncés à l'avance dans la presse, il y a des cartes postales qui sont éditées, les enfants peuvent avoir un jour d'école en moins pour le spectacle, pour pouvoir assister au lynchage. Bref, c'est une forme de justice qui n'est ni officielle ni officieuse dans une zone qui est réglée par le shérif local, par les forces de l'ordre local. On a donc bien affaire à un système de terreur qui se met en place aux États-Unis pendant une bonne partie du XXe siècle. Le Ku Klux Klan est l'une de ces organisations, pas forcément d'ailleurs la plus importante, mais celle qui a pignon sur rue, en particulier dans les années 20, lorsqu'elle défile dans les rues de Washington, la capitale américaine. Il y en a bien d'autres de ces organisations suprémacistes blanches qui, localement, font régner une forme d'ordre social et d'ordre politique qui, en quelque sorte, intimide et terrorise celles et ceux qui seraient tentés de se rebeller ou de manifester une forme d'opposition à l'égard de la ségrégation.
Donc tout ceci perdure très fortement jusqu'à l'entre-deux-guerres.
Jusqu'aux années 60.
Jusqu'aux années 60, et le mouvement pour les droits civiques.
Absolument.
Et aujourd'hui alors, où en sommes-nous? S'il fallait faire une description ou un bilan de la question de la race ou du racisme aux États-Unis?
Alors, les grandes lois des années 60, 1964 et 65, interdisent la ségrégation dans le sud des États-Unis, là où elle était réglée par les dispositions locales, rétablissent le droit de vote pour tous les citoyens américains, en particulier les Noirs du sud des États-Unis, qui n'avaient pas accès au droit de vote jusque-là. C'est donc un moment très important que 1964 et 1965. Et à ce moment-là, on a espéré, bien entendu, que le racisme et la ségrégation allaient reculer de manière définitive aux États-Unis, un peu comme au fond en France dans les années 50, après le génocide de la Seconde Guerre mondiale. Avec la décolonisation, on espérait aussi qu'avec l'éducation, les forces du racisme, de la haine, allaient reculer définitivement. Aujourd'hui, on en est bien revenu de cela, parce que beaucoup d'indicateurs socio-économiques, mais aussi ce qu'on observe depuis quelques années en ce qui concerne les relations entre les Noirs américains, particulièrement les jeunes, et la police, montrent bien que, en dépit des progrès enregistrés depuis 50 ans, il existe aux États-Unis ce qu'on peut appeler un racisme systémique, un racisme institutionnel, par lequel être noir ou être blanc, ça n'est toujours pas la même chose dans ce pays.
Ça se manifeste sous quelle forme? Les violences, tu as dit les violences policières, est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, les violences policières, c'est un point très important qui a mobilisé d'ailleurs les associations noires comme la NAACP, la principale, qui a un peu plus d'un siècle depuis le début du XXe siècle, qui a mobilisé aussi dans les années 60 les Black Panthers, par exemple dans les années 60. Le nom complet, c'est les Black Panthers for Self-Defense, pour l'autodéfense, sous-entendu, contre les policiers dont le comportement brutal, arrogant, terrorisait et faisait peur à la population noire, particulièrement des grandes villes, des ghettos noirs, des grandes villes américaines. Donc ça, c'est une longue histoire qui s'est trouvée en quelque sorte revivifiée par le mouvement Black Lives Matter depuis quelques années, avec l'appui de vidéos qui montre de façon évidente le comportement de ces policiers. Donc il y a quelque chose d'important là qui s'inscrit dans une longue histoire. Mais il y a autre chose, il n'y a pas que les violences policières, il y a toute la question des discriminations sur le marché du travail. Par exemple, il est évident que l'accès au marché du travail, que les promotions aussi dans les organisations privées, également publiques, ne sont pas les mêmes selon que l'on est afro-américain ou que l'on est blanc, par exemple. Il y a aussi, d'une manière générale, la question de l'accès à la politique. En dépit de l'élection d'Obama, il y a encore très peu d'élus afro-américains au Congrès. Et puis, également dans l'ordre du politique, il y a également des efforts importants qui sont faits par le Parti républicain depuis quelques années pour revenir à la période qui était celle d'avant 1965, c'est-à-dire empêcher la population noire de voter. Non pas par des lois, c'est impossible aujourd'hui, mais par toutes sortes de dispositions pratiques qui, de facto, rendent difficile l'exercice du droit de vote.
Parmi les formes peut-être récentes, relativement récentes, de racisme, est-ce qu'on ne peut pas dire que la prison en est une des expressions ou une des modalités les plus surprenantes? C'est-à-dire qu'on voit, dans tout le cinéma américain d'ailleurs, on voit à quel point le pourcentage de noirs dans les prisons est considérable. Est-ce que ça nous dit aussi quelque chose sur le racisme aux États-Unis?
Le pourcentage d'Afro-Américains en prison est d'environ 40%, alors qu'il ne constitue que 13% de la population totale. Mais c'est une véritable chaîne, en réalité, depuis la police jusqu'au système judiciaire, jusqu'aux condamnations, qui pèsent beaucoup plus lourdement sur les Noirs que sur les Blancs, les Noirs et les Hispaniques, d'ailleurs, et puis ensuite la prison, et puis ensuite la sortie de prison, être sous contrôle judiciaire, c'est perdre ses droits civiques aux États-Unis. La sociologue Alice Goffman a montré comment le poids de la prison ou la menace de l'emprisonnement dans les quartiers noirs des grandes villes américaines a des effets énormes sur les familles, sur la scolarisation des enfants, etc. C'est donc tout un ensemble qui va bien au-delà du temps de prison proprement dit, mais il est évident que cette question-là, la question du système policier et du système judiciaire, est une question très grave où les inégalités raciales, là, atteignent des sommets avec des conséquences, encore une fois, qui sont absolument désastreuses pour l'ensemble de la communauté afro-américaine. Songez que, entre 25 et 34 ans, un homme noir sur 10 est en prison contre un homme blanc sur 100. Cela a des effets qui sont des effets absolument catastrophiques.
Je suppose que dans le discours raciste, c'est la démonstration que les Noirs sont bien plus criminels que les Blancs.
Bien entendu, et cela d'ailleurs, ce genre d'argument se fraye son chemin en France. Il y a toute une controverse à propos du pourcentage de prisonniers qui soient noirs ou arabes. Donc c'est un argument, bien entendu, dans le discours qui est le discours conservateur à tonalité raciste, que de justifier, bien entendu, cet emprisonnement par le comportement des premiers concernés plutôt que par le système judiciaire. Mais on a tant d'études universitaires en particulier, mais aussi journalistiques, qui montrent que le système judiciaire est biaisé et que deux personnes accusées du même crime ne sont pas du tout jugées de la même manière selon leur race, pour prendre le vocable américain, mais aussi selon leur position de classe. Les deux s'entrecroisent, bien entendu, mais il y a là une réalité du système judiciaire qui est tout de même difficile à nier.
Si on considère les représentations racistes, les préjugés, les stéréotypes, les conceptions même de la race qui circulent aux États-Unis, on peut avoir le sentiment que les choses ont relativement évolué, mais peut-être jusqu'à un certain point, et qu'en particulier à partir des années 70 ou 80, beaucoup de racistes ont dit des Noirs, non pas qu'ils sont inférieurs pour des raisons physiques, mais qu'ils sont différents parce que culturellement ils ne veulent pas s'adapter aux valeurs américaines. Est-ce qu'on peut dire que cette inflexion se précise, se durcit? Et autre question, qui n'est pas tout à fait la même bien sûr, pendant longtemps, la définition de qui est noir était biologique, la goutte de sang. Est-ce qu'on en est toujours là ou est-ce que voilà, les représentations, les définitions de quartiers dangereusement noirs, si je peux dire, du point de vue raciste, ont évolué.
Alors, il est vrai qu'aux États-Unis, comme dans d'autres régions du monde, on est passé du vieux racisme biologique de jadis à un racisme culturel, disons, qui met moins en avant l'existence de particularités physiologiques, raciales au sens originel du terme, que des particularités culturelles. Ces gens-là se comportent d'une manière qui est finalement irréductible à ce que nous, nous entendons par l'américanité. La grande différence, au fond, entre la France et les États-Unis, c'est que les Noirs américains se prévalent d'une présence très ancienne aux États-Unis. On peut difficilement les renvoyer à un pays étranger, à une origine étrangère récente, eux qui sont aux États-Unis depuis plus longtemps qu'une majorité d'Américains blancs arrivés plutôt à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il n'en demeure pas moins que cette accusation culturelle de relever d'une culture étrangère est encore présente. J'en veux pour preuve ces accusations fantaisistes à propos d'Obama, à propos duquel on disait, Trump lui-même d'ailleurs, on a été un des principaux propagateurs, qu'il était né à l'étranger. Donc il y a toujours cette idée-là de Noirs américains qui seraient quand même attachés à des mondes étrangers, en particulier au continent africain.
Mais il y a peut-être derrière ça une vérité démographique, si je peux dire, qui est qu'il y a eu les descendants d'esclaves d'un côté, il y a les descendants d'esclaves d'un côté, et il y a effectivement des migrants qui sont arrivés beaucoup plus récemment. Et donc c'est peut-être aussi deux populations qui sont dans l'imaginaire américain différentes.
C'est vrai, il y a une population noire aux États-Unis qui vient du monde caribéen et de plus en plus d'Afrique de l'Ouest, qui contribue à rendre le monde noir américain plus hétérogène qu'il l'était dans le passé, même si à Harlem, dans les années 20, par exemple, une personne sur cinq était née à l'étranger. Généralement, c'était le monde caribéen. Il n'en demeure pas moins que dans les grandes masses, les noirs américains, enfin les noirs d'Amérique qui vivent aux États-Unis sont très majoritairement nés aux États-Unis et issus d'une filiation qui remonte à l'esclavage, c'est-à-dire à des ancêtres qui sont arrivés au XVIIIe siècle. C'est quelque chose comme 95% ou 96%. Donc dans l'ensemble, le monde noir américain est afro-américain dans cette filiation-là, même si Obama, bien entendu, dément ce que je viens de dire. Donc pour revenir à ta question, le racisme culturel est aujourd'hui dominant, mais on sait aussi, en tout cas c'est mon point de vue, que lorsque l'on gratte un peu le racisme culturel, souvent on trouve quand même à la fin des arguments qui voisinent avec le vieux racisme de jadis. Les liens entre les deux me paraissent quand même très forts.
Bien sûr, moi je suis assez sensible à l'idée que ce qu'on appelle culturel est en réalité naturel. Mmh. C'est-à-dire que si on dit de quelqu'un, tu es irréductiblement différent de par ta culture, oui. Si c'est irréductible, c'est que oui. C'est dans ta nature. Donc,
oui, la naturalisation est toujours très très présente.
Bien sûr. Alors, et la question que je posais sur la définition de la goutte de sang qui te fait ou pas être noir.
Alors, il est vrai que jadis, aux États-Unis, il y avait une définition qui était une définition physique, raciale, dure, de l'appartenance au monde noir américain, qui était réglée en particulier par le fait d'avoir ou pas un ancêtre afro-américain. La question de la goutte de sang a été présente dans certains États du sud des États-Unis jusque très récemment, jusque dans les années 80, par exemple en Louisiane. Il y avait une commission de cet État qui était chargée de déterminer l'appartenance raciale des personnes en cas de contestation, notamment à l'occasion d'un mariage, puisque jadis, en Louisiane et dans beaucoup d'États, les mariages dits interraciaux étaient interdits. Et donc il fallait vérifier, il y a eu beaucoup d'affaires judiciaires à ce sujet, il fallait vérifier si les personnes qui se mariaient appartenaient bien à la même race. Il y a eu beaucoup de controverses à ce sujet qui finalement se sont éteintes, en particulier parce que la Cour suprême en 1967 a décidé que les mariages interraciaux étaient légaux aux États-Unis, dans tous les États-Unis, en particulier dans le sud des États-Unis. Donc la question de la goutte de sang n'a plus de validité juridique aujourd'hui. Ce qui détermine l'appartenance raciale aux États-Unis, c'est l'autodéclaration. On le voit par exemple dans le recensement américain, où on demande aux personnes, ce qui choque souvent d'ailleurs les Français, on demande aux personnes quelle est dans quel groupe les personnes se situent, et puis on coche le groupe que l'on veut. On peut mettre « other », « autre » aussi, si l'on estime que l'on appartient à aucune catégorie en particulier, avec cet objet qui n'est pas celui de sonder les cœurs et les esprits pour savoir quelle est l'identité choisie profonde des personnes. On explique aux Américains que cela a pour but de déterminer, au fond, l'existence de discrimination. Cela permet d'établir des statistiques sur les différentiels qui peuvent exister entre les différents groupes aux États-Unis. Bref, on s'attache moins à déterminer les identités choisies qu'à déterminer les apparences. Au fond, la question qui est posée, c'est plutôt celle de savoir comment êtes-vous, considérez-vous généralement dans la société ? Est-ce que vous êtes plutôt vu comme noir ou plutôt vu comme blanc ? C'est une question qui est donc relativement floue, mais on s'aperçoit aussi que les gens savent très bien, en général, de quelle manière ils sont considérés dans la société. Et lorsque l'on croise l'apparence des gens avec la manière dont ils répondent, on s'aperçoit que presque toujours, les personnes d'apparence noire répondent en disant qu'elles sont bien noires, d'autant plus qu'on sait que depuis les années 60, il y a des mouvements profonds aussi de revalorisation identitaire qui font qu'on peut transformer en sujet de fierté ce dont on voulait jadis faire honte. Donc il n'y a plus de règlement juridique fixant la race aux États-Unis, cela relève du choix des personnes, mais ce choix des personnes, bien entendu, est lui-même contraint par la société.
Le racisme américain a longtemps été pensé d'abord comme une forme de domination des Blancs sur les Noirs, ou comme, pour ce que tu as appelé les Petits Blancs, qu'on appelle là-bas les Petits Blancs, comme une façon pour les Petits Blancs de s'inventer une supériorité menacée, sinon pour des raisons sociales. Aujourd'hui, comment est-ce que l'on peut analyser la question de la race en relation avec la question sociale ? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde blanc, et peut-être pas seulement blanc, qu'est-ce qui se passe que l'on voit monter comme ça, du soutien à Donald Trump, par exemple ?
Il y a incontestablement dans le monde blanc américain une vague que moi, en dépit des discussions que l'on peut avoir sur ce terme, j'appelle tout de même une vague populiste réactionnaire qui s'observe depuis la fin des années 60 et depuis les années 70. Si l'on pense à un Nixon, par exemple, élu en 1968, il y avait déjà chez Nixon ou même chez Reagan en 1980 des éléments qui ont été repris par Trump plus tard. Ce qui se passe, me semble-t-il, c'est qu'il y a dans une partie du monde blanc américain, la partie ouvrière en particulier, celle qui, du point de vue de la classe, subit les effets d'une domination générale, des formes d'exploitation. Le monde ouvrier américain a aussi été bien payé. Mais depuis les années 70, ce monde-là se trouve en butte à la crise industrielle, au chômage, et au fait que, ça c'est la grande caractéristique du monde ouvrier américain, c'est la disparition des emplois ouvriers très bien payés. Le monde ouvrier américain était très bien payé, en particulier dans les secteurs protégés par les syndicats, des syndicats puissants, et le remplacement de ces emplois très bien payés par des emplois mal payés. C'est la grande caractéristique que l'on observe aujourd'hui, puisque le taux de chômage aux États-Unis est bas, il avoisine 5%, c'est mieux qu'en 2008, mais quantité d'emplois bien payés ont été remplacés. Là, il y a une accélération du remplacement des emplois bien payés par des emplois mal payés. À cela, il faut ajouter le fait que depuis les années 1960, les mondes minoritaires en général, noirs, hispaniques, se sont fait entendre, et de quelle manière politiquement, par le mouvement pour les droits civiques et les mouvements de revendication politique et identitaire des années 70, pour réclamer, bien entendu, un accès égal au marché du travail, et donc en accélérant aussi des phénomènes de compétition pour l'accès aux emplois, qui sont les emplois, ne nécessitant pas ou peu d'études. Et donc, pour beaucoup de petits blancs américains, il y a eu cette conjonction entre des demandes issues des minorités et la grande crise du capitalisme industriel, la grande crise du fordisme, finalement, pour cette conjonction-là a amené à une conclusion en partie fausse, bien entendu, qui est que les minorités sont responsables de la situation dans laquelle ils sont.
Alors, on voit bien ce qu'il en est donc du monde ouvrier. On peut avoir aussi le sentiment qu'il y a des classes moyennes, blanches, qui se sont aussi raidies ou durcies dans leur racisme.
C'est vrai, on l'a observé notamment du côté du vote Trump. Non pas que le vote Trump soit un vote majoritairement populaire, mais c'est un vote beaucoup plus populaire que les précédents candidats républicains, Romney par exemple en 2012 et ses prédécesseurs. C'est ça qui est la grande caractéristique. Par ailleurs, il y a une classe moyenne blanche américaine qui est une classe moyenne solidement républicaine depuis les années 1970. Le parti démocrate ne fait que mordre de ce côté, y compris un Obama ou un Clinton dans les années 90 ou un Carter dans les années 70 ne récupéraient au mieux que 40, 41, 42% du vote blanc. Le vote, les démocrates sont élus, ne sont pas élus par les blancs américains, ils sont élus par une coalition minoritaire. Si je puis dire. Donc Trump s'inscrit dans la lignée républicaine classique.
Si j'essaie de ramasser tout ce que tu nous présentes, j'ai quand même des images qui rendent extrêmement inquiets ou sombres. On sort de l'esclavage, 15 années de bonheur, et puis violence, Ku Klux Klan, lynchage, loi Jim Crow. Bon. Et puis, une longue période s'ouvre, qui aboutit au mouvement pour les droits civiques et à nouveau des années, sinon de bonheur, du moins de grande espérance, qui retombe d'ailleurs assez vite avec la violence, y compris côté noir. Et aujourd'hui, ça retombe, tous ces espoirs, il y en a le sentiment qu'il faut repartir à zéro dans tous les domaines. Il y a de la ségrégation, il y a de la discrimination, il y a de la violence, il y a de l'emprisonnement. Quelle image générale faut-il garder de tout ce processus historique à la date d'aujourd'hui ?
Si je pars d'aujourd'hui, ce qui paraît urgent aux États-Unis, c'est la reconstitution d'une grande coalition qu'on pourrait qualifier de Front populaire si le terme s'appliquait aux États-Unis, mais on pourrait aussi penser au New Deal dans les années 1930, c'est-à-dire d'une coalition qui rassemble une partie majoritaire de la population américaine qui a plutôt intérêt au changement, qui a plutôt intérêt à une meilleure lutte contre les inégalités qui se sont accentuées, y compris d'ailleurs pendant la présidence Obama, face à des segments plus conservateurs de la société américaine. Or, cette coalition-là, elle est fracturée, elle n'existe pas, il n'y en a que des bouts avec les minorités, avec les femmes qui tendent à voter plus démocrate que républicain. Et encore, d'ailleurs, du côté des femmes blanches, c'est plutôt Trump maintenant qui a eu le vote majoritaire, mais aussi du côté de ce monde blanc qui est en grande difficulté, incontestablement, en particulier dans les vieux États industriels du sud des États-Unis. Comment on fabrique à nouveau une coalition politique majoritaire aux États-Unis. Cette coalition, elle a existé dans les années 30, mais c'était une époque où Roosevelt ne pouvait pas toucher à la ségrégation parce que les démocrates du Sud étaient nécessaires à sa majorité. Elle a existé dans les années 60, lorsque Kennedy a osé se débarrasser des démocrates du Sud pour se tourner vers les minorités. C'est donc un grand virage qui a été opéré à ce moment-là. Donc comment on reconstruit ça ? Et ça, c'est un travail de longue haleine qui nécessite, me semble-t-il, de s'attaquer à deux éléments qui sont essentiels et qui ne sont pas contradictoires l'un vis-à-vis de l'autre. D'une part, c'est la question des inégalités qui sont flagrantes aux États-Unis et qui s'accroissent depuis les années 80. 1% des Américains possèdent plus de 50% de la richesse nationale. C'est un pourcentage double par rapport aux années 70. On est revenu aux années 20, comme si le grand effort du New Deal avait été annulé. On est dans une situation extraordinaire de ce point de vue aux États-Unis. Et puis, d'autre part, l'existence, en effet, d'inégalités raciales persistantes, inégalités raciales qui sont tolérées par une grande partie de la population américaine, la population blanche, qui estime que finalement c'est l'ordre des choses et que les Noirs n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, pour retrouver donc des formes de solidarité pour lutter contre ces formes d'inégalité. Moi, c'est ce que j'appelle reconsidérer la question sociale. Si l'on veut bien considérer la question sociale, pas simplement par le prisme de la classe, ça demeure essentiel, mais en considérant d'autres variables, les variables de genre, les variables de race. Selon les moments, aux États-Unis, ces coalitions-là ont pu exister ou ont pu apparaître, mais à chaque fois pour des moments quand même extrêmement brefs, avec souvent des dissociations qui s'opéraient entre le monde blanc populaire américain et le monde des minorités. Comment on rassemble ces mondes-là? Ça, c'est un grand enjeu de la politique américaine depuis la fin du 19e siècle, incontestablement. Ça, c'est quelque chose que finalement Obama n'a pas tout à fait réussi à faire, puisque il a soutenu d'une façon extrêmement appuyée la candidate démocrate Hillary Clinton, et à juste titre. Il l'a fait comme aucun président ne l'avait fait dans le passé vis-à-vis de son successeur potentiel, et pourtant cela n'a pas fonctionné, ce qui montre bien que une partie de la population américaine, y compris celle qui a voté pour Obama, ressent néanmoins, a beaucoup d'acrimonie, est en colère. On peut parler d'une Amérique en colère, d'une Amérique qui a la rage aussi, pour reprendre le fameux mot de Sartre des années 1950, qui est en colère vis-à-vis de leur situation vécue, que l'on peut résumer ainsi: des inégalités insupportables et en même temps le sentiment que les groupes minoritaires sont en partie responsables de la situation dans laquelle ils sont.
J'ai une toute dernière question. Quand on parle des États-Unis, quand on écoute les Américains, on parle de la race. En France, parler de la race, c'est tout de suite être raciste. Alors comment est-ce qu'on s'en sort quand on n'est pas raciste et qu'on parle de la race comme si on était côté américain?
C'est très difficile, évidemment, d'employer le vocabulaire de la race, puisque c'est un mot qui est utilisé par les racistes, y compris les racistes les plus durs, bien entendu, en France, mais aussi aux États-Unis. Et pourtant, lorsque l'on parle de race dans les sciences sociales aux États-Unis, également lorsque le président Obama, par exemple, peut utiliser ce terme, nous ne faisons pas allusion à un objet, comme si la race existait dans la réalité, mais à une catégorie mentale, à une catégorie imaginaire dont les effets sociaux sont évidemment extrêmement importants. Donc il faut bien distinguer l'objet de la catégorie, mais le terme lui-même est un terme glissant, si j'ose dire, avec un potentiel essentialisant extrêmement fort. Et donc, personnellement, c'est un vocable que j'utilise dans un cadre universitaire, ou en tout cas, c'est un vocable que j'utilise avec précaution, tant il peut être mal interprété. Mais aux États-Unis, on l'utilise de façon beaucoup plus libérale, si je puis dire, qu'en France.
On peut dire que la race est une construction sociale, imaginaire et symbolique. Il n'empêche que dans les manuels d'anthropologie américains, encore parfois aujourd'hui, la race n'est pas du tout une construction imaginaire. C'est la couleur de la peau, la forme du crâne, la chevelure, enfin, ce genre de choses.
Oui, donc il y a bien cette ambiguïté, cette ambivalence qui est évidente. Mais parler des questions de racisme, parler de la manière dont la race fonctionne comme une construction sociale, une catégorie imaginaire, c'est forcément se coltiner, si je puis dire, avec des notions et avec une longue histoire qui sont des notions difficiles. Il faut en quelque sorte saisir des objets qui sont des objets difficiles. On ne peut pas s'en sortir, me semble-t-il, simplement en balayant la question, en disant les races n'existent pas, nous le savons bien depuis fort longtemps, et l'humanité ne fait qu'une, et dès lors, le racisme est appelé à reculer avec l'éducation. Ça, c'est ce qu'on pensait dans les années 1950, avec les grandes campagnes, évidemment, faites pour lutter contre la bête immonde, mais on en est revenu, bien entendu, depuis les années 50. Aux États-Unis, l'approche est finalement une approche plus pragmatique qu'en France. On ne cherche pas à lutter contre le racisme en tant que tel. D'ailleurs, le premier amendement à la Constitution autorise le fait de, d'exprimer et de divulguer des idées racistes, contrairement à la France, où ces idées peuvent faire l'objet de procédures pénales. En revanche, ce qui est prohibé aux États-Unis, ce sont les comportements racistes, ce sont bien entendu les comportements aussi discriminatoires. Bref, aux États-Unis, on dit un peu, pour reprendre l'image qui est utilisée, on ne peut pas arrêter la pluie, mais on peut quand même avoir des parapluies. On peut quand même faire de telle sorte que les idées racistes n'aient pas d'effet sur la société. C'est en rabattre, certainement, par rapport à la noblesse du combat antiraciste à la française, si je puis dire, qui veut extirper les idées noires des esprits. Mais cette approche pragmatique peut être aussi vue de manière favorable parce qu'on s'intéresse d'abord aux conséquences. On regarde de près ce que le racisme institutionnel fait aux acteurs sociaux, et cela peut avoir des effets pratiques plus mesurables et plus tangibles que le combat antiraciste dans sa noblesse, en quelque sorte, tel qu'il a été surtout pensé en France depuis les années 50, même si les choses ont changé depuis, avec l'essor, bien entendu, de la notion de discrimination depuis le début des années 2000.
Merci beaucoup.